Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés sans boussole, Seigneur, mais tu nous as donné cette carte du salut, Seigneur, et de la vie chrétienne. Et nous voulons te remercier pour cela ce matin, Seigneur. Merci parce que par ton Saint-Esprit, tu nous diriges. Comme le dit ce chant que nous venons de chanter, Seigneur, tu nous sondes et tu nous remets dans le bon chemin quand nous nous égarons, Seigneur. Merci pour ta sollicitude envers nous, envers chacun d'entre nous, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, mais tu nous portes dans les moments difficiles également, Seigneur. Merci pour ton grand amour qui t'a poussé jusqu'à la croix pour nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu dans un livre qu'on n'a pas trop l'habitude d'ouvrir, justement, un chronique. J'espère que vous savez où c'est, dans la Bible. Après les rois. Et nous allons lire au chapitre 13, du verset 1 au verset 14. 1 Chronique 13, 1 à 14. David tint un conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Chishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirja Jearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Balaa, à Kirja Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uzza et Achio conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher là? J'ai intitulé ce message « Les bonnes intentions ne suffisent pas ». Pourtant, on est tous pétris de bonnes intentions ici, je suppose. Tout au long de notre vie chrétienne, qui est plus ou moins longue selon, nous sommes amenés à prendre des décisions, à choisir des chemins qui vont évidemment influencer notre marche avec Dieu. Tous les compartiments de notre vie sont concernés. Notre vie spirituelle, bien sûr, mais aussi notre vie familiale, notre vie de couple, notre vie professionnelle et nos relations avec ceux qui nous entourent, dans un sens large. Dans ces domaines si variés, notre bonne volonté à bien faire, ne suffit pas pour choisir les bons chemins. Alors laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a quelque temps déjà, dans le pays de Canaan. Un jeune général, en chef des armées d'Israël, vous doutez de qui c'est, Josué, avait été mandaté par Dieu pour faire entrer le peuple d'Israël dans le pays promis. L'ordre de Dieu était sans équivoque possible à ce niveau-là. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entré dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu et vous détruirez tous les hauts lieux. On peut lire ça dans Nombre, chapitre 33, verset 52. Aucune équivoque possible. La première ville détruite entièrement par Israël fut Jéricho. Bravo pour ceux qui suivent. Jéricho, oui, Josué accomplit exactement ce que lui avait ordonné Dieu à ce niveau-là. Au sujet de la prise de cette ville, vous connaissez l'histoire, je suppose. Hein, c'est une belle histoire qu'on raconte souvent aux enfants, mais qui est très utile pour nous également en tant qu'adultes. Vous connaissez donc cette façon dont Dieu avait planifié la prise de Jéricho pour en retirer toute la gloire. Et évidemment, cette conquête s'accomplit d'une manière tout à fait surnaturelle, puisque les murs de la citadelle s'écroulèrent. Pourquoi ? Ben parce que les sacrificateurs avaient tourné autour de la ville. Imaginez bien que, normalement, ça ne provoque pas l'effondrement de murailles, jusqu'à nouvel ordre. L'obéissance et la dépendance de Josué vis-à-vis de Dieu lui valut une grande victoire. Amen. Pourtant, il y a toujours un pourtant dans cette histoire, la seconde ville sur le chemin d'Israël était aïe, aïe, aïe. Une petite bourgade par rapport à Jéricho, sans grand intérêt d'ailleurs. Mais dans son aveuglement, le peuple, et Josué d'ailleurs, qui est aussi coupable que le peuple à ce niveau-là, se croyant maître de la situation, organisa la prise de la ville sans consulter l'Éternel. Dieu avait pourtant, et certainement, comme pour Jéricho, un plan bien précis pour livrer cette ville entre les mains d'Israël et, évidemment, pour en retirer toute la gloire également. C'était le but de Dieu, mais le peuple ne l'écouta pas. Mince alors. Ils attaquèrent la ville, jusque-là, selon l'ordre initial de Dieu, de chasser les habitants du pays devant eux. Ils avaient obéi, jusque-là tout va bien. Ils éprouvèrent pourtant une grande défaite. Certainement, ils avaient le désir d'obéir à Dieu et d'accomplir sa volonté à ce niveau-là. Mais le résultat ne fut pas selon leurs espérances. Ne vous est-il jamais arrivé de vouloir accomplir quelque chose pour Dieu sans succès ? Non ? Alors que vous êtes persuadé que c'est dans sa volonté, bien entendu. Cela soulève beaucoup d'interrogations dans nos vies, la plupart du temps, et génère un grand découragement. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Hein, quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu qui vous semble logique et selon le plan de Dieu et que vous n'y arrivez pas, c'est pas bon pour le moral. Ce matin, nous allons, au travers de l'exemple de David, et vous voyez que l'exemple de David et l'exemple de Josué ont pas mal de similitudes, eh bien, nous allons voir qu'il est tout à fait possible de vouloir accomplir la volonté de Dieu, mais d'échouer. Chaque fois que nous voulons faire la volonté de Dieu, le faisons-nous selon les critères fixés par Dieu, ou alors suivons-nous l'exemple de David dans cette affaire ? J'ai divisé le passage en quatre parties, pour que ce soit bien clair dans nos têtes. C'est le but. La première partie, je l'ai intitulée « David est affermi dans sa position de roi ». C'est sa position, sa situation à ce moment-là. La seconde partie, je relève les bonnes intentions de David, puisqu'il était rempli de bonnes intentions. Par contre, la troisième partie est beaucoup moins rigolote, c'est l'ignorance coupable de David, et pour terminer, la quatrième, l'échec et la colère de David. Ça résume bien le passage que nous venons de lire. David est affermi dans sa position de roi. Première partie. Les chapitres 10 à 12 de 1 Chronique nous éclairent sur la position de David à ce moment-là. Cette période est dramatique pour le peuple d'Israël. Saül est à la tête du peuple, mais suite à sa désobéissance, il a été rejeté par Dieu. Alors on se trouve dans une position d'un peuple qui a un roi qui est rejeté par Dieu. C'est pas un bon plan, ça. La guerre contre les Philistins fait rage, et l'armée d'Israël vient d'éprouver une grande défaite à Gilboa. Et d'ailleurs, lors de cette défaite, Saül et son fils Jonathan sont tués. Dieu transfère la royauté à David à ce moment-là. Dans 1 Chronique 10, 13, on peut lire Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors, l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Le fils d'Isaïe, donc David, est plébiscité par toutes les tribus d'Israël à ce moment-là, et son influence grandit de plus en plus. Et d'ailleurs, Dieu le bénit et affermit son règne. N'oublions pas que David est le roi selon le cœur de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi, et non pas les hommes. Paradoxalement, comme je vous dis, il y a toujours un truc qui est un peu négatif, c'est normal, on est en train de parler d'échec. Paradoxalement, cet état de choses va préparer, d'une certaine manière, les événements que nous étudions concernant le retour de l'Arche d'Alliance à Jérusalem et le drame qui va en découler, qu'on vient de lire également. On peut tirer déjà une première application de cette chose. Quand nous sommes affermis dans notre vie chrétienne, et j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre vous, que Dieu nous bénit dans notre service pour lui. Et là aussi, j'espère que c'est votre cas. Nous pouvons certaines fois, par excès d'assurance, prendre des décisions hâtives, sans prendre le temps de chercher la volonté de Dieu. Ah bon, mais je sais faire maintenant, Dieu m'a briefé à ce niveau-là, ça fait 4 fois que je fais la même chose, maintenant je sais faire, je peux faire sans lui. Ou en tout cas, sans le consulter directement. C'est plus la peine de prier, je sais que c'est sa volonté. Attention, Dieu veut tout au long de notre vie chrétienne nous façonner afin que nous soyons de plus en plus dépendants de lui et non pas l'inverse. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Quand on est arrivé à un certain niveau spirituel, entre guillemets, le danger est de plus en plus élevé. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dégringoler beaucoup plus facilement. On n'est pas là pour se départir de la houlette de Dieu. On est là justement pour rester dans son giron, pour rester à son écoute. Et tout au long de notre vie chrétienne, c'est ce que Dieu veut nous apprendre. C'est que sans lui, nous ne pouvons rien faire de bon. Il n'y a que si nous restons attachés à lui dans une attitude d'humilité qu'il va nous utiliser pour sa gloire seule. Pourtant, c'est intéressant, David est rempli de bonnes intentions, comme nous. Et c'est notre seconde partie. David est affermi comme roi, il est béni par Dieu et il est rempli de bonnes intentions. Premièrement, il consulte les chefs du peuple afin de les associer à la décision qu'il va prendre. C'est un bon roi, David. Versets 1 et 2 de notre passage. David est rempli de sagesse dans sa façon de traiter le peuple. Il veut être un bon roi et non un despote comme son prédécesseur Saül. C'est bien. Il est dans la bonne voie. Il veut honorer Dieu en faisant revenir l'arche d'alliance à Jérusalem. N'oublions pas que l'arche d'alliance, l'arche de Dieu, fut prise par les Philistins lors de la bataille de Gilboa, et Saül et Jonathan trouvèrent la mort. Le traumatisme pour les enfants d'Israël est énorme à ce moment-là. D'ailleurs, dans 1 Samuel 4, 22, on peut lire « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise ». La première chose que David se propose de faire en tant que roi est hautement symbolique d'ailleurs. Je ne sais pas, quand vous voyez maintenant dans la vie politique des hommes politiques qui font quelque chose de fort pour affermir leur pouvoir, ça marche. Bien, David fait un peu la même chose. Le retour de l'arche à Jérusalem doit lui donner, outre sa qualité de roi guerrier qu'il a déjà, une dimension spirituelle forte aux yeux de son peuple. De plus, David aime l'Éternel et désire lui être agréable. Je ne pense pas qu'il fasse cela comme une manœuvre pour s'attirer les bonnes grâces du peuple, mais c'est parce qu'il aime l'Éternel qu'il le fait. Et il désire lui être agréable. Ce sont les meilleures intentions du monde à ce moment-là. Quoi de plus normal pour lui de faire revenir l'arche de Dieu à Jérusalem ? De plus, il prend les décisions nécessaires pour le retour de l'arche. Il tient conseil avec les chefs et les princes du peuple afin de leur soumettre son désir en premier, puis ensuite il convoque tout le peuple ainsi que les lévites afin de les rassembler, histoire de dire « Je ne prends pas la décision tout seul. Vous êtes avec moi. » Il monte lui-même accompagné de tout le peuple à Bala afin d'aller chercher l'arche. Il n'envoie pas quelqu'un le faire, il va avec tout le monde et il organise pratiquement le retour de l'arche. David, à ce moment-là, ne s'est pas contenté de donner des ordres afin d'accomplir sa volonté, il s'implique lui-même personnellement dans l'organisation. Ce n'est pas un personnel, c'est lui qui a pris la décision et c'est lui qui va accomplir la chose avec l'aide du peuple, bien entendu, et des Lévites. Il ne fait aucun doute que nous aimons Dieu. C'est un axiome de base, ça. Et que nous voulons faire sa volonté. Nous désirons que nos vies le glorifient et nous voulons l'honorer et l'adorer. Amen.
Amen.
Bon, alors je peux continuer. Nous voulons qu'il prenne la première place dans nos vies. Et nous désirons que son arche ait la première place dans nos cœurs. Et cela est bon et agréable à Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. Mais pouvons-nous agir sans considérer les voies de Dieu et les directives clairement énoncées dans sa parole et ainsi faire comme du temps des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon ? Oh, je suis les voies de Dieu à peu près. C'est à peu près dans son plan. Bon, je navigue un petit peu à droite et à gauche, mais bon, c'est pas bien important. J'atteindrai le but quand même. Je ne sais pas si vous avez lu le voyage du pèlerin. Le pèlerin, un jour, il s'est trouvé devant deux chemins. Un chemin paraissait agréable, verdoyant, avec des cours d'eau, plat, donc facile à arpenter. Et le second chemin, par contre, lui, commençait à grimper dans la montagne avec des cailloux partout, et ça grimpait comme ça. Quel chemin choisir ? Il semblait, ces deux chemins, aller au même endroit. Au lieu de prendre la vie de Dieu, ben, il a choisi le chemin le plus agréable. Ça vous paraît normal ? Ça avait l'air d'être un raccourci. Vous imaginez un raccourci dans la vie chrétienne, ça peut servir. Oui, mais non. Le problème, c'est qu'il s'est fourvoyé, évidemment, il est tombé dans des marécages, et qu'ensuite, pour s'en sortir, il a fallu qu'il crie à Dieu. Et heureusement que Dieu est miséricordieux pour le pèlerin, et pour nous aussi d'ailleurs. Et Dieu l'a sorti de là. Mais combien de temps a-t-il perdu ? Et combien de temps pouvons-nous perdre, nous aussi, dans ce genre de situation ? En tout cas, choisissons le bon chemin. Le seul moyen de le faire, c'est de consulter l'Éternel, par la prière, par le jeûne, en écoutant son esprit qui veut nous diriger. Le Seigneur ne nous laisse pas aveugles, il veut nous diriger, réellement. Et nous en venons à notre troisième partie, l'ignorance coupable de David. L'ignorance coupable de David, mais l'ignorance de quoi ? Ça avait l'air de bien se passer tout ça dans son histoire. Quoi de plus logique pour David que de faire revenir l'arche à Jérusalem et pour cela utiliser un char neuf tiré par des bœufs ? Il n'y avait pas de bicyclette, il n'y avait pas de mobylette avant, il n'y avait pas encore moins de chars, ni quoi que ce soit de ce genre-là. Tout était tiré par des bœufs. Alors ils ont choisi le moyen de transport le plus adéquat et le plus logique. Quoi de plus naturel, donc, comme moyen de transport à cette époque, bien entendu. Le plus important, c'est qu'elle arrive en bon port, et en bon état de préférence. Peu importe le moyen utilisé, et puis un char neuf, c'est déjà une marque de respect vis-à-vis de Dieu. Le problème, parce qu'il y a un problème, bien entendu, sinon David aurait réussi dans son entreprise. Le problème, c'est que Dieu ne l'entend pas de cette oreille du tout. Israël est son peuple. Il lui a donné des lois et des ordonnances très précises quant à la façon dont il doit se comporter avec son Dieu. Quand je dis précis, c'est vraiment précis, hein, si vous avez lu le Lévitique. Tous les compartiments de la vie d'Israël sont régis par la loi de Dieu, clairement édictée dans l'Ancien Testament. Le culte, les offrandes, les sacrifices, mais aussi la vie courante et les relations humaines au sein du peuple. Tout cela est régi d'une manière très, très, très claire et précise. Pour ce qui concerne notre récit, on va focaliser, bien entendu, Dieu a donné aussi des directives claires quant au service de l'arche et à son transport. Seuls les Lévites de la maison de Kehath étaient habilités à transporter l'arche, non pas sur un char neuf, aussi beau soit-il, mais en utilisant les barres fabriquées à cet effet et à dos d'homme. C'est certainement beaucoup plus fatigant, mais c'est ce que Dieu avait prévu. Et chaque fois que la nuée se levait, le tabernacle était plié et les fils de Kehath se chargeaient de l'arche et la transportaient. On peut voir ça dans le livre des Nombres, au chapitre 3, versets 29 à 31. Les familles des fils de Kehath campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles des Kehathites était Elitsaphan, fils d'Uziel. On remit à leur soin l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lequel on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. La loi de Dieu sur le tabernacle était extrêmement stricte. Un proverbe latin, pour changer un petit peu, attribué à Aristote, dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ça a été un peu détourné, mais quelque part, c'est la vérité. Alors vous allez me dire, on ne peut pas connaître toute la loi. Peut-être pas, mais si on ne la connaît pas, on ne peut pas se targuer de notre ignorance pour faire ce qu'on veut. On sera sous le coup de la loi, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas. C'est ce qui se passe dans le droit français, en tout cas. Alors notre code civil à nous, c'est la Bible. David non plus n'était pas censé ignorer la loi sur le transport de l'arche. Il aurait dû la connaître. Et s'il ne la connaissait pas, il aurait dû se renseigner avant, puisqu'il savait que l'arche faisait partie du tabernacle et du culte rendu à l'Éternel. C'était une chose sainte qu'on ne pouvait pas transporter de n'importe quelle manière. 1 Samuel 15 à 22 nous dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dieu attache une importance toute particulière à l'obéissance. Alors on peut faire beaucoup de choses pour Dieu, on peut faire des approximations, mais si on n'obéit pas à Dieu, ça n'a aucune valeur devant lui. Les lois édictées dans l'Ancien Testament, outre leur valeur morale évidente, puisque on les a détournées dans le Code Napoléon et on en a repris beaucoup dans notre loi française, c'est donc qu'elles sont bonnes, avaient une autre caractéristique. Elles reflétaient l'image de Christ dans toutes ses perfections. Nous pouvons lire dans Hébreux 8, verset 5, « Il célèbre un culte, image des ombres des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Pourquoi Dieu attachait-il un soin si particulier à la construction d'une boîte en bois recouverte d'or? Quel était le but? Et si on étudie, c'est pas le bon moment de le faire parce que ça serait trop long, mais si on étudie les matériaux, la façon de construire l'arche ainsi que tout le tabernacle, on retrouve justement des images des perfections de Christ. David, en tant que roi, était dépositaire et garant de cette loi. Il n'aurait pas dû l'ignorer en organisant le transport de l'arche. Mais sa position et son succès en tant que roi lui ont fait certainement oublier que même un roi doit se soumettre à la loi de Dieu. Alors, vous allez me dire que nous ne sommes pas des rois. Je me trompe peut-être. Je ne pense pas qu'il y ait de roi chez nous, et on n'est pas en charge du sacerdoce non plus. Ben, laissez-moi vous lire un passage dans 1 Pierre 2, 9, qui nous dit que nous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quelle position ! Alors oui, nous ne sommes pas des rois, mais au moins nous sommes des ambassadeurs pour Christ. L'application pour nous de ce passage, c'est que Dieu veut que nous accomplissions de bonnes œuvres, effectivement, pour lui, mais pas les nôtres. Plutôt celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est tellement plus intéressant. Dieu veut que nous dépendions de lui à chaque instant de notre vie. Et que tout ce que nous faisons le glorifie lui et pas nous. Nous avons souvent tendance à nous mettre en avant à la place de Dieu. Ben, c'est pas bien. C'est très mauvais. Le fait de servir Dieu d'une manière qui ne lui est pas agréable entraîne inévitablement l'échec. Et c'est ce qui arriva à David. Nous avons vu que David était un bon roi. Il était affermi même par Dieu et il avait toute la bénédiction de l'Éternel. Il était même rempli de toutes les bonnes intentions du monde. Et pourtant, il a échoué. L'échec et la colère de David. Waouh ! On comprend l'échec, la colère peut-être un peu moins. L'échec se manifesta d'ailleurs très rapidement et d'une manière particulièrement tragique, puisqu'il entraîna la mort quand même d'une personne, Uzza. Vous me direz, mais pourquoi c'est pas David qui est mort? C'était lui le coupable. Celui-ci, en effet, étendit la main pour retenir l'arche qui penchait dangereusement, au mépris de la sainteté de Dieu qui interdisait que quiconque touche l'arche. C'était pas sa faute, le pauvre. Les chemins, à ce moment-là, ils étaient chaotants. Il y avait de grosses dornières, et puis ce gros char tout neuf avec ses bœufs, ben, il cahotait de partout, le pauvre. Et l'arche n'était pas bien grosse. Elle penchait. Imaginez qu'elle tombe, l'arche. Pensez-vous que Dieu n'était pas assez puissant pour prendre soin lui-même de son arche? Dieu a été miséricordieux envers David, car c'est une autre personne qui a payé pour son ignorance. Ne vous en faites pas, si vous vous trompez, c'est vous qui allez payer. La première réaction de David fut l'irritation. Mais très vite, elle fut remplacée par la peur. Certainement, David a compris, en réfléchissant à ce moment, toute l'étendue de la sainteté de Dieu. Hébreux 12, 29 nous dit « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et à ce moment-là, la loi de Dieu à ce niveau-là est extrêmement précise et stricte. N'avez-vous jamais éprouvé l'irritation et même peut-être la colère lors d'une tentative avortée de faire quelque chose de bien pour Dieu? Je parle d'une belle chose, selon le cœur de Dieu. Vous êtes sûr que c'est sa volonté et ça ne marche pas. C'est irritant. Avant de nous laisser entraîner par la colère et l'incompréhension, nous poser les bonnes questions concernant la cause de notre échec. Puisqu'il n'y a pas d'échec que Dieu n'utilise pas pour nous faire du bien. Nous n'aimons pas échouer dans notre service pour Dieu et d'ailleurs dans rien d'autre. L'échec est toujours quelque chose d'extrêmement désagréable. Pourtant, certaines fois, Dieu le permet afin de nous épurer et de nous éprouver. Dieu désire que nos œuvres soient faites en lui et pour lui. Tout le reste n'a aucune valeur. Aucune valeur. 1 Corinthiens 3, 12 et 13 nous dit « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Le feu, ça brûle. Ça brûle justement ce qui n'est pas de Dieu et qui n'est pas fait pour sa gloire. Gardons-nous donc de nous irriter quand Dieu nous fait échouer. Mais remettons-nous plutôt en question en nous examinant nous-mêmes afin d'agir selon les plans parfaits. Sonde-moi, ô Dieu, on vient de le chanter, souvenez-vous. Mais si on demande à Dieu de nous sonder, vous savez quoi ? Ben, il va le faire. Hein. Il va sonder nos cœurs, il va sonder nos voies, et si on est sur une mauvaise voie, il va nous remettre dans le droit chemin si on se laisse faire. Alors les échecs sont une manière pour nous d'apprendre. Dans la vie courante, même dans les entreprises, l'échec peut être vécu comme quelque chose d'humiliant, ou alors on peut rebondir et on peut aller de l'avant en se disant « mais la prochaine fois, je ne ferai pas la même erreur ». Et c'est comme ça que Dieu veut que nous réagissions. Si nous échouons dans son service, mettons-nous devant Dieu et Dieu nous éclairera sur la façon dont il veut que nous le servions. En conclusion, l'étude de ce passage m'a beaucoup appris, moi, sur la façon dont Dieu jauge nos efforts pour lui plaire. L'exemple de David dans cette affaire nous montre qu'il était béni par Dieu, rempli de bonnes intentions afin d'honorer l'Éternel, qu'il agit en toute bonne foi pour réaliser son dessein. On est dans une situation exceptionnellement favorable, et pourtant, mais il n'a pas complètement dépendu de Dieu, il n'a pas été attentif à la loi pour accomplir cette bonne œuvre de ramener l'arche à Jérusalem. Il n'a pas respecté la parole de Dieu, et Dieu a rejeté ses efforts. Heureusement, il n'a pas rejeté David. Et pour nous, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que nous échouons certaines fois que Dieu nous rejette. Dieu nous aime et nous conserve dans sa grâce. Et heureusement. De la même manière, notre vie est jalonnée d'une succession de décisions qui vont consolider ou affaiblir notre dépendance de Dieu. Parce que c'est bien de là, de ça qu'on parle, notre dépendance. Notre responsabilité, c'est de nous soumettre à Dieu en toute humilité afin de pouvoir dire comme Paul, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. C'est quelque chose qu'on peut dire facilement, ça. Mais est-ce qu'on peut le vivre facilement ?« J'ai été crucifié avec Christ. » Quand on sait ce qu'a coûté ce sacrifice à Jésus, j'ai été crucifié avec lui, ben ça implique beaucoup de choses dans nos vies. Ça implique justement cette dépendance que nous devons avoir envers Dieu, cette humilité. Alors nous avons le désir de faire la volonté de Dieu, ok, alors veillons à ne pas agir selon notre propre volonté, mais plutôt pour Christ, parce que c'est lui qui nous a sauvés, par Christ, parce que c'est lui qui accomplit les choses quand nous nous confions en lui, et en Christ, parce que nous sommes déjà en Christ dans les lieux célestes. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cet exemple de David et de Josué également, Seigneur, qui retrace ses échecs, et pourtant ce sont des hommes de Dieu que tu as bénis, Seigneur, mais tu ne les as pas rejetés pour autant, Seigneur, tu les as fait avancer dans leur vie, Seigneur, pour toi. Tu leur as appris des choses par ces échecs, Seigneur, et ce que nous voulons retenir ce matin, Seigneur, c'est que tu ne rejettes personne, Seigneur. Nous sommes faits de chair. Nous sommes sujets à l'échec, aux erreurs, Seigneur, mais nous voulons tirer, Seigneur, ce que tu veux nous apprendre de ces échecs, et nous voulons te servir tel que tu veux que ce soit fait, Seigneur, pour ta gloire seule. Alors que toute la gloire te revienne ce matin, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.